Dans son éditorial à la une de La Croix ce vendredi, Guillaume Goubert nous ramène quelques semaines en arrière lorsque les législatives apparaissaient comme un sommet d'incertitude. Que l'on se souvienne, écrit le directeur du journal, cela paraît déjà si loin. Avant la présidentielle, la candidature d'Emmanuel Macron semblait présenter une faiblesse, l'absence derrière lui d'une force parlementaire solide et durable. Tout cela est aujourd'hui hors de propos. Personne ne semble plus douter qu'Emmanuel Macron disposera d'une large majorité après les élections législatives. Alors le retournement est en effet assez impressionnant. Le troisième tour de la présidentielle n'est plus présenté que comme une formalité pour la majorité du moment. Même l'opposition a renoncé à défendre l'hypothèse d'une cohabitation. La ligne d'attaque désormais est la suivante. Ne pas donner une majorité trop forte à La République En Marche. Ne pas donner les clés du pays à un parti unique. Ce qui est certain, c'est qu'à l'issue des deux tours de scrutin, l'Assemblée nationale aura été fortement renouvelée et que les nouveaux élus devront rapidement se mettre au travail, en jugé par l'ambitieux programme de réforme du nouvel exécutif. Mais quelles seront leurs marges de manœuvre, leurs forces de proposition? Une nouvelle Assemblée nationale, pourquoi faire? C'est la question posée au club ce soir et posée à Philippe Manière. Bonsoir.
Bonsoir.
Consultant, le cabinet Footprint Consultant, vous le dirigez. Le magazine Challenge, vous y écrivez. Ludivine Montigny, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes historienne, maître de conférence en histoire contemporaine à l'Université de Rouen. Et Sylvain Bourmeau, bonsoir.
Bonsoir.
Professeur associé à l'EHESS et producteur de La Suite dans les idées sur France Culture chaque samedi à
13h30.
404 lois votées en 5 années, c'est vrai 404?
Alors c'est vrai Thomas, et même le chiffre de Thierry Mandon date du 30 novembre, 20 lois ont été votées depuis sur la protection des lanceurs d'alerte, la valorisation des territoires de montagne, en tout 424 textes votés en 4 ans, c'est un peu moins que sous le mandat de Nicolas Sarkozy. En réalité, si l'on écarte...
Emmanuel Macron veut réformer le code du travail par ordonnance. Une façon selon lui d'aller plus vite. Les syndicats, eux, craignent de ne pas participer à l'élaboration
Macron
du texte.
Est-ce qu'Emmanuel Macron est parti pour avoir cette fameuse majorité à l'Assemblée?
La réponse des sondages est oui. Et si l'on en croit les sondages, c'est visiblement un oui qui se consolide et qui s'amplifie. C'est d'ailleurs assez incroyable. Il faut quand même se rappeler qu'il y a un mois, personne n'aurait misé un copec sur le fait qu'Emmanuel Macron obtienne une majorité. Et d'ailleurs, ses opposants avançaient même l'argument qu'il ne fallait pas voter pour lui parce qu'il aurait le plus grand mal à obtenir cette majorité.
Pour Bernard Cazeneuve, la nouveauté, c'est bien, mais l'expérience, c'est mieux. Est-ce que ça veut dire, Alba, que la politique doit être une affaire de pro?
C'est en tout cas la conviction de Bernard Cazeneuve et il est récidiviste en la matière, oui. Car comme lui a rappelé Elisabeth Martichoux, il y a 5 jours, il déclarait « On ne prend pas la mer avec des barreurs de petit temps, mais avec des bateaux éprouvés ».
À voter. À voter.
Voilà, de la façon d'observer et l'ancienne législature et celle à venir dans un certain nombre de médias. C'est un mix proposé par Lise-Marie Barré. Je voudrais revenir peut-être pour démarrer cette émission avec vous trois, Sylvain Bourmeau, Philippe Manière et Ludivine Bontigny, sur cette éditoriale de Guillaume Goubert dans La Croix qui faisait ce comparatif entre ce que l'on disait de ce que représenteraient les législatives il y a quelques semaines encore et ce qu'on en dit aujourd'hui, c'est-à-dire finalement une élection qui semble devoir être jouée d'avance, la seule incertitude étant quel sera le niveau de la majorité qui sera confiée, offerte à Emmanuel Macron. Est-ce que vous êtes surpris par ce retournement, Sylvain Bourmeau?
Non, je ne suis pas surpris d'ailleurs. Quand on avait parlé de cette perspective des élections législatives juste après le deuxième tour de l'élection présidentielle, je me souviens avoir dit à ce micro qu'il y avait une règle qui me semblait sous-estimée dans beaucoup de commentaires que j'entendais, qui veut qu'un président de la République élu, on lui donne une majorité très nette et très claire. Il y a ce fait majoritaire, cette présidentialisation de la vie politique dans notre pays qui est très marquée. Alors, j'avais mis des réserves, j'avais dit, c'est vrai qu'on est dans une situation inédite, on a affaire à quelqu'un qui n'a jamais été élu auparavant, et on a surtout affaire à une organisation politique En Marche qui est très récente, qui n'est pas implantée localement, ce à quoi on pouvait ajouter aussi qu'on avait une offre politique extrêmement éclatée en 4 grands blocs. Et donc tout ça pouvait peut-être nous amener à nuancer cette loi, en quelque sorte, de la politique. Mais on s'aperçoit qu'il n'en est rien, c'est-à-dire que cette loi prévaut et que, au fond, n'importe qui ayant été élu président de la République au mois de mai dernier aurait obtenu le même type de résultat. Donc, ce qu'on voit, et peut-être qu'on le voit d'ailleurs d'autant plus fortement que il faut reconnaître qu'Emmanuel Macron a su immédiatement se glisser dans la fonction présidentielle et, je dirais, faire jouer à plein l'effet présidentiel sur les législatives. Il faut lui reconnaître ce talent. Donc, voilà, pas de surprise. Au fond, business as usual sur la Ve République.
On peut dire qu'il y a une forme de mécanique implacable des institutions et du quinquennat, Ludivine Mantini, ou est-ce qu'on peut aussi considérer qu'il y a, et mais c'est peut-être d'ailleurs le cas lors des précédents scrutins, une forme de mécanique médiatique qui fait qu'on donne crédit à celui qui est élu, on lui donne peut-être davantage d'espace et qu'il y a un discours assez performatif qui peut finir par s'installer justement dans le traitement politique.
Oui, alors il y a en effet plusieurs facteurs qui expliquent cette situation qui est en fait aberrante, parce que c'est vrai qu'on peut avoir recours à l'histoire et se dire, comme vous venez de le faire Sylvain, qu'il y a une logique à donner une majorité confortable au nouveau président de la République élu. Mais simplement, ce qu'il faut rappeler, c'est la singularité de l'élection présidentielle de cette fois, à savoir que Emmanuel Macron a été très mal élu, c'est-à-dire qu'il a été élu par défaut, il a été élu avec un taux d'abstention très élevé, avec énormément de bulletins blancs et nuls, et il a été élu, y compris par ceux et celles qui ont voté pour lui au second tour, là aussi en creux, par rejet. Et on a déjà pu établir et documenter assez précisément qu'en réalité, celles et ceux qui se reconnaissent véritablement sur le fond de son projet politique sont moins de 15% du corps électoral. Donc, en fait, on a une situation comme ça absolument aberrante du point de vue politique. C'est ce qui s'annonce comme, en effet, une majorité écrasante. À mon avis, il va y avoir aussi beaucoup d'abstention. Par exemple, on a beaucoup parlé dans les médias, disons mainstream, du résultat du vote des Français de l'étranger, en parlant de ces fameux 80%, etc. Mais c'était oublié quand même la participation absolument dérisoire.
Voilà, la participation, elle est de moins de 20% s'agissant des législatives pour les Français de l'étranger.
Sachant que, par ailleurs, il y a une sociologie électorale particulière des Français de l'étranger. Vous avez parlé tout à l'heure, Hervé, de l'opposition, que l'opposition en gros ne se manifesterait que très peu dans ce cadre. En fait, le problème, c'est que l'opposition, elle n'est plus dans l'opposition. Elle est, enfin, si on parle des Républicains et de la droite, en fait, puisque le gouvernement, c'est vraiment clairement un gouvernement de coalition, c'est-à-dire globalement un gouvernement de droite, on pourra y revenir. Et dès lors, enfin, on a des circonscriptions, on a énormément de circonscriptions, avec plusieurs candidats, comme on le sait, qui se revendiquent de la majorité présidentielle. Je ne donnerai qu'un exemple et je me tais. C'est celui du 18e arrondissement, où on a un Pierre-Yves
Vous
Bournel.
Vous parlez de Paris, donc,
De Paris, oui, tout à fait.
Pour ceux qui n'habiteraient pas Paris.
Oui, bien sûr, mais il n'y a pas d'autre ville où il y en aurait 18 arrondissements, mais vous avez raison, il faut préciser. Où on a Pierre-Yves Bournazel, des Républicains, et Myriam El Khomri, officiellement donc, du Parti Socialiste, qui s'alignent tous les deux sur l'idée d'une majorité présidentielle, et qui disent qu'ils vont ensemble faire barrage à la France insoumise.
Avec ce que vous évoquez, cette circonscription, ce qui est intéressant, c'est qu'on apprend que Édouard Philippe va soutenir Pierre-Yves Bournazel et que la ministre de la Culture, Françoise Nyssen, elle, apporte son soutien à Myriam El Khomri.
Mais
ils font partie du même gouvernement.
Pour ajouter, parce que ce n'est pas une exception, cette circonscription. Il y a une autre circonscription que je connais bien, dans le 13e arrondissement de Paris, où vous avez également un candidat socialiste, je mets des guillemets, qui se réclame de la majorité de la gauche de la majorité présidentielle, alors qu'il a en face de lui un candidat estampillé En Marche qui pose à côté d'Emmanuel Macron sur ses affiches. Donc ce candidat socialiste, entre guillemets, officiellement soutenu par le Parti Socialiste, mais pas par Benoît Hamon qui soutient la candidate Europe Écologie Les Verts, ce candidat n'a pas honte au fond, finalement, de se réclamer la majorité présidentielle et d'aller rampant devant les électeurs, alors même que la majorité présidentielle a désigné quelqu'un d'autre pour la représenter dans cette circonscription. Je trouve que c'est pas anecdotique, ça en dit long sur l'état de délabrement de la politique dans ce pays, à mon sens. C'est-à-dire que on a là une manifestation des pires effets de la professionnalisation politique.
Philippe Manière, est-ce qu'au-delà du poids des institutions, on peut considérer que la confusion, parce qu'il y a quand même énormément de confusion finalement dans ce scrutin des législatifs, semble devoir profiter à la majorité présidentielle. Mais bien entendu, il faudra attendre le lendemain du second tour pour tirer les enseignements définitifs de cette élection.
Mais tout
toutes les anecdotes qu'on vient d'entendre, qui sont effectivement chaque fois assez roboratives, elles montrent une chose, c'est qu'aujourd'hui, la quasi-totalité du paysage politique se rallie à Emmanuel Macron pour la raison très simple que si on veut être élu, il faut dire qu'on est pour Macron. Faut pas oublier que c'est des gens qui ont des convictions, mais qui ont aussi des intérêts.
Professionnalisation politique.
Professionnalisation un peu, pas seulement. Il y a des gens qui y vont de bonne foi. On peut pas non plus jeter le discrédit en général. Il y a d'ailleurs dans les candidats qui nous sont soumis cette fois beaucoup moins de professionnels de la politique que d'habitude, par définition, puisque dans le mouvement En Marche, il y a quand même il y a un certain nombre de gens qui n'étaient pas du tout dans le paysage politique avant.
Luc Rouban, chercheur, donnait un entretien très intéressant au Figaro hier, dans lequel il disait que seul un tiers des candidats En Marche n'avaient pas de rapport direct avec la politique. Certes, ce ne sont pas des élus, mais ce sont des gens qui ont travaillé dans les cabinets.
Je suis pas là pour défendre En Marche, c'est pas mon sujet. Je dis simplement que c'est un fait que un tiers, c'est considérable. D'habitude, il y en a epsilon. D'habitude, il y a presque que des représentants du monde politique tel que nous le connaissons depuis de toute éternité. Alors oui, il y a des facteurs institutionnels qui sont extrêmement forts. Le quinquennat, il faut le dire, a aboli toute légitimité autonome de l'Assemblée nationale. Toute Assemblée nationale élue, passez-moi l'expression, au cul de l'élection présidentielle, donnera une majorité au président de la République. Et je pense que c'est quelque chose qui est quasiment irréversible et qui sera quasiment implacable. Et moi, ce qui me frappe, c'est les différences avec 2002. Parce que 2002, rappelez-vous, il y avait eu une élection de Jacques Chirac qui avait été assez bien élu en pourcentage, si je reprends l'argument de Ludivine. Mais son élection avait été beaucoup plus contestée. En tout cas, ce qu'il avait fait de son élection avait été beaucoup plus contesté parce qu'à l'époque, le programme de Chirac, bon, je trouvais relativement chèvre-chou, mais était malgré tout considéré comme étant clivant. Or, là, on a, et je crois que c'est ça la nouveauté, et c'est ça qui fait qu'on a cette impression de raz-de-marée, en quelque sorte, le programme de Macron est tout ce qu'on veut, sauf clivant. C'est un peu tout ce qu'on veut dans le programme de Macron. Donc, beaucoup de gens peuvent s'y reconnaître. En tout cas, vous n'avez pas, comme en 2002, une population nombreuse de gens qui ont voté à contre-cœur pour le candidat qui était face à Marine Le Pen, parce que c'était la seule solution, alors même qu'il ne partageait pas du tout ses convictions. Le programme de Macron ne permet pas de s'opposer radicalement, sauf, il y a des gens, bien sûr, Ludivine, je vous vois sourire, mais beaucoup moins de gens sont susceptibles de s'opposer à Macron qu'il y en avait susceptibles de s'opposer à Chirac. Donc ça crée un élément de fond de commerce, un élément de renforcement du vote Macron. Et puis pour finir, on peut trouver ça niais ou bien, ça c'est les goûts, les couleurs, enfin, il y a tout de même une sorte de fraîcheur dans tout ce qui est en train de se passer du point de vue politique, et il y a beaucoup de gens qui ont envie de jouer cette carte de la fraîcheur, du renouveau, en tout cas qui n'ont pas envie de s'y opposer, et qui donc ne vont pas se mobiliser contre le raz-de-marée, quand bien même ils ne partageraient pas les convictions, pour autant qu'on puisse juger des convictions d'Emmanuel Macron et de son gouvernement. Donc soit tout ça va dans le même sens pour que rien ne s'oppose à un raz-de-marée. Alors tout ça a des inconvénients, y compris d'ailleurs pour le président, on y reviendra sans doute, mais je crois qu'il y a une espèce de conjonction de facteurs institutionnels, conjoncturels, qui font que c'est assez peu résistible.
Alors restons sur cette hypothèse que vous évoquez, Philippe Manière, d'une absence de sujet véritablement, en tout cas de projet véritablement clivant. Est-ce que vous partagez cette approche-là, Ludivine Bortigny et Sylvain Bourmeau? Est-ce qu'on pourrait considérer y voir une explication dans le fait qu'on a l'impression quand même que cette campagne des législatives n'a pas existé, en tout cas qu'il n'y a pas eu de débat, de véritable débat d'idées au moment de cette campagne, alors qu'on disait effectivement, la présidentielle, il y a eu les affaires, donc le débat d'idées, il a été écarté, mais vous verrez, pour les législatives, ça va reprendre. Or, manifestement, enfin, en tout cas, moi, s'il y a eu un débat d'idées, je ne l'ai pas vu passer. Ludivine Bortigny.
Oui, alors, je pense que le débat d'idées, on ne le voit que très peu passer si on ne lit la presse, disons, la plus officielle, hein, parce que c'est un des grands problèmes de notre supposée démocratie actuelle, c'est qu'il y a une sorte de caporalisation, une sorte d'alignement de macronites aigu qui est quand même profondément grave dans les médias. Donc ça, c'est une chose. Et il me semble, Philippe, que quand vous dites que le programme n'est pas clivant, excusez-moi, mais ça y participe dans une certaine mesure, parce qu'en fait, c'est un programme qui est extrêmement violent. C'est un programme, par ailleurs, qui, pour certaines dimensions, je pense à l'état d'urgence qui est en train d'être, ça va être la première mesure, la première loi, le premier projet de loi du gouvernement, c'est d'insérer l'état d'urgence dans la juridiction ordinaire. Alors même que Emmanuel Macron s'était engagé à ne pas faire de l'état d'urgence un état d'urgence permanent, parce que c'est particulièrement liberticide. On va pouvoir peut-être parler.
J'en suis d'accord, mais je crois que peu de gens vont se mobiliser là-dessus.
Alors,
malheureusement, à mes yeux, mais c'est pas un sujet clivant, malheureusement.
Vous allez voir beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens dans la rue, parce qu'il y avait déjà beaucoup, beaucoup de gens dans la rue, en grève, en manifestation, en occupation de place, au printemps 2016, contre la loi travail. Et on est vraiment face à une offensive qui est beaucoup plus violente, beaucoup, beaucoup plus grave. On pourrait y revenir en détail au besoin, mais en tout cas, y aura beaucoup de gens dans la rue, ça se prépare déjà. Il y a déjà des manifestations qui auront lieu en juin, un front social qui s'organise.
Mais Guylaine Martinier, juste une chose, enfin, par rapport aux précédentes législations sur le terrorisme, il y en a eu quand même un certain nombre de lois ces dernières années. On peut pas dire que la mobilisation, autant sur la loi travail, il y a eu du monde, autant sur les lois terrorisme, c'était quand même pas massif la mobilisation.
Il y a eu beaucoup de prises de position, beaucoup de rassemblements, énormément de mobilisation. Mais en effet, on voit assez peu, excusez-moi de le souligner à nouveau, mais dans les médias classiques, voire dominants, si je peux me permettre cette expression. Donc il y a beaucoup de gens qui se mobilisent contre l'état d'urgence, et c'est malheureusement trop invisible. Quant à la fraîcheur supposée d'Emmanuel Macron, alors moi ça me rappelle vraiment historiquement la figure de Laurent Fabius, parce qu'on avait joué exactement sur le même registre, l'homme neuf, l'homme jeune, l'homme moderne.
Sauf qu'il venait d'un parti qui préexistait. Il y a une fraîcheur dans En Marche qu'on aime ou qu'on n'aime pas.
Oui, mais ça c'est un instrument, vous voyez, c'est un emballage. C'est vraiment un emballage. Parce que la fraîcheur, moi, je ne la retrouve pas, y compris dans les domaines où on pouvait encore imaginer que Emmanuel Macron différerait de Manuel Valls, par exemple, à savoir sur toute la question liée au postcolonialisme, etc. Et maintenant, quand on l'entend parler des Comoriens comme s'il s'agissait de produits de pêche, même en ça, il est discrédité, il est profondément disqualifié, et il fait ressortir quelque chose d'extrêmement malsain et particulièrement grave, me semble-t-il.
Sylvain Bourmeau.
Pour revenir à la question de ce qui est clivant ou pas, de l'absence de débat d'idées dans cette campagne législative. Il est vrai que pendant la campagne présidentielle, on avait du mal à critiquer le programme d'Emmanuel Macron, dans la mesure où ce programme est demeuré flou très très longtemps. C'était le positionnement de Macron, et ce qu'il mettait en avant, c'était une certaine forme de pragmatisme au fond. Là, on a vu, dans la période très courte qui s'est ouverte avec l'arrivée d'Emmanuel Macron à l'Élysée et avant ses élections législatives, sur quelques dossiers, on a vu ce nouveau gouvernement prendre des décisions ou en tout cas préparer des projets de loi, et des mesures au moins dans deux grandes directions dont on a parlé, le domaine du droit social et le domaine antiterroriste. Et là, on commence à avoir du concret. Ce qui est absolument incroyable, c'est qu'on a le sentiment que ce qu'on sait maintenant, avec des éléments, et là je ne suis pas du tout d'accord avec Ludivine Bantini, les journaux ont magnifiquement fait leur travail, en particulier je pense à Libération et au Monde, qui ces derniers jours ont révélé ces projets de loi, les ont mis en lumière, ont analysé ce que va être la politique de ce gouvernement de façon très critique, aussi bien pour Libération que pour Le Monde. En tous les cas, la presse quotidienne n'est pas du tout dans la Macron-mania qu'on peut observer dans certains hebdomadaires.
On peut aussi ajouter Le Parisien, qui a révélé l'avant-projet de loi sur le travail.
Vous avez raison, Hervé. Donc, je pense que ce travail journalistique est parfaitement fait. Ce qui est incroyable, c'est qu'on a le sentiment que ça ne prend pas sur l'élection. C'est-à-dire que c'est comme si les deux n'embrayaient pas. C'est-à-dire que je me mets à la place d'un électeur d'Emmanuel Macron, qui aurait voté pour Macron à la présidentielle précisément parce qu'il est gêné par les postures autoritaires d'Emmanuel Valls et qui trouve que Macron est bien plus intéressant parce que c'est un vrai libéral politiquement, qu'il a des propos sur la crise des migrants, par exemple, qui sont beaucoup plus responsables que ceux de Manuel Valls, qu'il a des propos sur la déchéance de nationalité ou sur les libertés publiques qui vont mieux à quelqu'un qui se positionne au centre-gauche ou au centre-droit et qui défend ses libertés publiques. Mais aujourd'hui, je me mets à la place de cet électeur. Mais cet électeur doit être choqué, scandalisé par la nature du projet de loi antiterroriste. Et d'ailleurs, il suffit d'entendre les positions. Il était l'invité des Matins de France Culture il y a quelques jours, de quelqu'un comme François Sureau, qui est plutôt au centre droit, qui est un vrai libéral, et qui est horrifié de la situation des libertés publiques dans notre pays, qui dit « mais on est trop peu », et là je ne suis pas d'accord non plus avec Ludivine Bantini, personne ne se mobilise contre cette atteinte liberticide, personne, c'est rien par rapport aux manifestations de la loi au travail, hélas. Alors qu'on a là quelque chose d'extraordinairement grave. Alors
comment est-ce que vous expliquez que ça ne prenne pas, justement ?
Alors, pour une raison qu'on n'a pas pointée jusque-là, c'est que, au fond, ce qui rend possible ça, c'est tout simplement que Emmanuel Macron est parvenu à détruire les deux partis politiques principaux qui structurent la vie politique depuis tant d'années. C'est-à-dire que la politique, les élections en particulier, c'est pas une demande électorale qui n'existe pas. C'est d'abord une offre politique qui structure cette demande. Cette offre-là, le Parti Socialiste est parfaitement incapable de la produire.
les Républicains sont parfaitement incapables de la produire aujourd'hui en l'état, depuis l'élection présidentielle. Donc ce travail de structuration du marché politique électoral n'a pas été fait. Et c'est la porte ouverte à la déferlante En Marche. Moi, je vois là la raison principale de cette situation aujourd'hui.
Philippe Manière.
Non, je crois que sur les deux sujets qu'on vient d'évoquer, qui sont effectivement les deux qui peuvent paraître clivants et qui, sans doute, le seraient si ce n'était pas Emmanuel Macron, si ce n'était pas En Marche, tout ça emballé dans une espèce de « voyez mes pattes, voyez mes ailes » qui a bien marché, c'est le moins qu'on puisse dire, pendant la présidentielle. Sur ces deux sujets clivants, il faut distinguer nos opinions personnelles et l'impact que ça a sur l'opinion en général. Moi, je ne suis pas suspect, je crois, à vos yeux, Sylvain, on en a souvent parlé. Je trouve que la prolongation de l'état d'urgence est liberticide, qu'il est problématique et j'y suis résolument opposé. Mais enfin, les libertés publiques, et je le regrette, mais c'est un fait, ne mobilisent pas beaucoup les Français.
On est d'accord.
Ce ne sont pas des sujets, malheureusement, qui sont des sujets de conversation quotidienne. Et la demande de sécurité, la peur du terrorisme, ce sont des choses qui existent, qui se développent. Et donc, l'offre politique, elle ne peut pas, y compris d'ailleurs dans les partis très fortement détruits, mais qui pourrait sinon capitaliser sur ce sujet s'il y avait une sorte de valeur de marché électoral, elle ne peut pas être portée par des concurrents d'Emmanuel Macron parce que ce n'est tout simplement pas prometteur en termes de voix. Il y a très peu de Français qui vont pousser des hurlements parce qu'on va attenter aux libertés publiques. C'est regrettable à mes yeux, bien sûr, mais c'est un fait. Quant à la loi travail, je pense que c'est un phénomène un peu différent. Mon analyse, qui vaut ce qu'elle vaut, mais je crois qu'on a vu évoluer ça au fil des 10-15 dernières années, c'est que les Français sont, dans le fond, assez résignés à l'idée que sur ces sujets-là, un changement est nécessaire. Tout simplement parce que la France est maintenant de notoriété publique. Le débat public, pour le coup, porte cette idée depuis une quinzaine d'années. Et la France est le dernier pays, pratiquement, qui n'ait pas fait le type de réforme qui est proposé par cette future loi travail, dont on ne sait pas très bien quelle elle sera, mais pour autant qu'on puisse en juger sur la base des textes qu'on peut lire. Les Français n'y sont pas affectivement attachés à ces changements. Ils les trouvent peu goûteux, si vous voulez. Mais ils y sont relativement résignés. Et donc, l'idée qu'on va commencer le quinquennat par faire passer ces changements, puis qu'ensuite on parlera d'autres choses, je pense que c'est une idée qui, dans le fond, réunit ceux qui sont favorables à ces changements, qui sont sans doute minoritaires, et tous ceux qui pensent qu'il faut malheureusement y passer et qui ne pouvaient pas s'y résoudre dans le cadre du paysage politique préexistant.
Mais du coup, c'est... Philippe Manière, à contrario, qu'est-ce qui aurait pu constituer un sujet clivant et qui aurait peut-être dû être pris en charge par ce qui est aujourd'hui l'opposition, que ce soit à droite ou à gauche, pour essayer de faire de cette campagne un vrai débat politique?
Ce sont des sujets qui, pour le coup, ne vont pas sembler à mes amis Ludivine et Sylvain particulièrement goûteux, eux non plus. Je pense, par exemple, qu'il y a un vrai reproche à adresser à Emmanuel Macron et à son programme présidentiel, et il n'y a pas eu d'indice qu'il ait changé depuis l'élection, s'agissant des finances publiques. Le programme d'Emmanuel Macron s'agissant des finances publiques n'est pas un programme qui réduit les déficits publics, qui réduit la dette publique, lesquels ne sont pas soutenables. La France est en situation de faiblesse par rapport à ses partenaires européens parce qu'elle continue à générer des déficits et parce qu'elle continue à accumuler de la dette. Ça n'est pas un sujet qui est traité directement ou de manière marginale. Là-dessus, il a voulu obtenir une sorte de paix des braves. Il n'a pas proposé beaucoup de nouvelles dépenses, mais ce qu'il propose comme réduction est très très faible. Ça correspond en gros à la dérive naturelle. Donc à la fin de son quinquennat, si tant est qu'il soit aussi vertueux qu'il le dit, et pourtant ce n'est pas très vertueux, on aura la même dépense publique qu'au début. Autrement dit, le sujet n'est pas traité. Donc on pourrait imaginer que quelqu'un porte ces idées-là. Mais ces idées-là, elles étaient portées par qui? Il y a 6 mois, elles étaient portées en gros par Fillon. Et donc Fillon, il est totalement démonétisé, pour dire le moins. Et personne ne va aller se positionner sur un programme qui, d'ailleurs, n'était pas en cause dans la défaite de Fillon. La défaite de Fillon, c'est la défaite d'un homme, mais qui a été marquée de l'infamie, du sceau de l'infamie, de la défaite. Donc, si vous voulez, encore une fois, ce sont des circonstances qui se combinent pour que l'opposition à Macron soit très faible, soit parce que les sujets n'intéressent pas les gens, soit parce que, dans le fond, les gens sont résignés, soit parce qu'il n'y a personne pour les porter, comme le disait Sylvain.
Est-ce que c'est à l'Assemblée nationale, pour vous, Ludivine Bantini, qu'il faut attendre et observer ce que sera vraiment le travail de l'opposition à ce qui semble devoir être la prochaine majorité, à savoir une majorité favorable à Emmanuel Macron?
Non, mais on a un autre problème historique et politique qui est ce régime présidentiel où le Parlement, enfin c'est bien connu maintenant, on n'a pas besoin d'être historien pour le savoir, le Parlement ne joue plus aucun rôle en fait. Donc il y a vraiment le coup d'État, comme l'avait appelé Mitterrand dans lequel il s'est bien moulé malgré tout le coup d'État supposément permanent des institutions de la Ve République, ben, fonctionne désormais justement en permanence. Et donc le Parlement n'a quasiment aucun rôle, il est dessaisi, il est très très largement dessaisi. Donc c'est pas là, évidemment c'est pas là que ça se joue. Moi je voudrais revenir quand même sur la question de la médiatisation des mobilisations sociales et des oppositions à ce programme qui maintenant en effet se précise quand même considérablement. C'est-à-dire que bien sûr que tous les jours il y a des initiatives contre ces politiques, tous les jours, mais si, mais il faut, en fait il faut lire pour ça pour le savoir, d'abord il faut y être, il faut être dedans, voilà. Et puis il faut aussi lire des médias alternatifs, il faut aller voir les réseaux sociaux qui en parlent, et puis voilà, si
leur poids n'est pas considérable, Ludivine, les médias que vous décrivez comme officiels en parleraient aussi, ils n'ont pas d'intérêt à les cacher, c'est parce que ça ne pèse pas bien lourd numériquement.
Vous dites par exemple que les Français, enfin moi j'aime pas beaucoup cette catégorie parce qu'elle est, on en a déjà parlé, à mon avis, il n'y a pas une essence des Français. Mais bon, alors donc, la population ne serait pas sensible à la question des atteintes liberticides, à un certain nombre de droits tels que ça va encore être aggravé avec cette législature. Mais si tous les jours, des médias comme TF1 ou BFM TV nous parlaient des conséquences précises de ces mesures liberticides, je pense que la sensibilité à ces questions serait autrement plus grande. Et croyez-moi que, y compris voilà, des institutions comme le syndicat de la magistrature mènent un travail considérable dont, que je sache, on n'entend jamais parler dans bien des médias. Alors, là où, en effet, je ne suis pas d'accord non plus avec Sylvain Bourmeau, c'est sur le fait que ce serait aux partis politiques, les deux principaux partis que vous avez évoqués, donc les Républicains et le Parti Socialiste, est-ce que ça pourrait être la panacée? Enfin, je veux dire, dans aussi bien, enfin, tous les sujets, et y compris ceux qu'on n'a pas encore abordés, les sujets que nous avons abordés, le code du travail profondément remis en cause, l'état d'urgence aggravé, mais également on pourrait parler des retraites, on pourrait parler de la question du chômage, voilà, enfin, autant de sujets qui ont déjà été, enfin, autant de thématiques qui ont été mises en œuvre politiquement par les deux partis que vous avez mentionné, Sylvain. Donc, en fait, moi, ce qui me gêne, c'est vraiment quand vous dites, Philippe, les Français sont résignés. Ça participe vraiment d'un discours, justement, d'assignation à la résignation. Et moi, j'aimerais vous poser une question sincère. C'est, par exemple, est-ce que vous avez entendu parler, dans la presse que vous lisez, du Front social qui se dessine dès le mois de juin, les premières manifestations qui se tiendront au mois de juin? Non, vous n'en avez pas entendu parler.
Ah bah attendez, on va laisser répondre Philippe Magnin, et puis ensuite oui. Sylvain Bourmeau qui veut
réagir. Non, j'en ai très peu entendu parler. Je suis sûr que ça existe, évidemment. Il y a 65 millions de Français, il y a évidemment des gens qui militent dans toutes sortes de camps, et je suis certain que ça existe. Et je ne suis pas surpris, je pense même qu'à certains égards, en particulier s'agissant des libertés publiques, c'est nécessaire et c'est sain. Mais encore une fois, le poids numérique de ces mobilisations est beaucoup trop faible pour que ça puisse peser sur le scrutin, et même pour que les grands médias puissent, avec une forme de légitimité, les décrire abondamment, parce que c'est tout petit. Et j'espère pour ceux qui soutiennent ces mouvements qu'ils vont prospérer, mais dans l'état actuel des choses, ils sont tellement minuscules qu'ils n'ont pas vocation à être rapportés par les grands médias qui sont obligés de faire le tri tous les jours. Alors, j'espère que...
Nous rapporte la moindre petite anecdote de
mais voilà, c'est comme ça. Oui, c'est...
Sylvain Bourmeau.
Voilà, je suis entièrement d'accord avec ce que Philippe Magnin vient de dire. C'est-à-dire que le problème, c'est que ces mouvements sociaux, qui sont réels s'agissant du droit du travail, on l'a vu avec les manifestations contre la loi El Khomri en particulier, aussi spectaculaires ces manifestations ont-elles été, combien de personnes regroupent-elles au regard d'un corps électoral même auquel on défalque les abstentionnistes? C'est bien ça qu'il faut prendre en compte.
Pourrait dire ça de n'importe quelle manifestation.
Absolument, mais justement, c'est-à-dire qu'on a peut-être tendance en France à accorder trop de poids politique à l'expression. Je ne dis pas qu'il faut que les manifestations ne se déroulent pas, elles sont très importantes, mais cette leçon de la séquence qu'on vient de vivre, c'est aussi celle qui, si on est réaliste, et on peut le regretter, mais si on est réaliste, nous conduit à observer que le poids électoral de ce type de mouvements sociaux est nul. Et parfois même, il est inverse. On a vu ce qui s'est passé après mai 68, avec un mouvement de réaction conservateur dans les urnes extraordinairement fort. Donc, je crois qu'il faut arrêter d'être dans des représentations politiques qui vont essayer de trouver des solutions dans la rue à des problèmes qu'on a éventuellement dans les résultats électoraux. Je pense que les problèmes doivent être résolus
dans les urnes, parce qu'on n'est pas dans les mêmes niveaux de grandeur, tout simplement. Alors, que les médias... que les médias doivent davantage parler, par exemple, de la situation dramatique pour les libertés publiques dans laquelle nous sommes. Je suis bien convaincu de cela, et je pense que des chaînes comme TF1 et BFM, si elles avaient les mêmes politiques éditoriales que des journaux comme Le Monde ou La Croix ou Libération, on n'en serait pas au même point. Mais en tous les cas, on ne peut pas reprocher à ces médias de passer sous silence les mouvements sociaux. Ce sont deux choses complètement différentes. Et je pense que pourquoi je parlais du Parti Socialiste et des Républicains, pas parce que c'est la panacée, pour simplement constater qu'il y a un travail politique d'organisation de l'offre qui était fait autrefois par des organisations politiques qui pesaient non pas pour mettre 100 000 ou 200 000 ou même 500 000 personnes ou 1 million de personnes dans la rue, mais pour avoir des dizaines de millions de voix. C'est pas du tout le même ordre de grandeur. On parle pas de la même chose, on parle pas des mêmes gens.
Puisque vous avez évoqué mai 68 et puisque c'est un thème sur lequel vous travaillez, Ludivine Bantini, comme historienne, qu'est-ce que vous pensez justement de cette comparaison? Est-ce que l'histoire ne nous enseigne pas justement qu'effectivement, voilà, ces révoltes, ces mouvements sociaux, fussent-ils aussi importants qu'ils le furent en mai 1968, mais ça ne se traduit peut-être pas derrière vers les objectifs qui étaient mentionnés justement dans ces mobilisations?
Alors, ce que l'histoire nous apprend, et notamment depuis 40 ans, c'est que les solutions ne sont décidément pas dans les urnes, puisque depuis 40 ans, les politiques qui sont impliquées sont les politiques auxquelles on a affaire aujourd'hui et qui nous ont conduit à la catastrophe. Donc voilà, ce ne sont pas
donc
les urnes.
Donc vous voulez faire quoi? La révolution? Prendre les armes? On est dans une démocratie.
C'est une démocratie.
Par les urnes,
que
ça se règle.
Alors, s'il vous plaît. Les quelques réformes sociétales, notamment qu'on a connues justement après 68, on a évoqué tout à l'heure dans la chronique précédente, par exemple l'abaissement du droit de vote à 18 ans, etc. Ce sont justement des mesures qui ont été prises dans le sillage.
Mais non, Lucien Neuwirth et la contraception, c'est avant 68, c'est un mouvement beaucoup plus vaste qui n'a rien à voir avec ce mouvement social.
Non, pas du tout. Enfin, justement, tous ces mouvements ont porté. Ces réformes, c'est comme la sécurité sociale, évidemment. Enfin, ce n'est pas le général de Gaulle qui en a décidé.
Oui, mais ça finit quand même par être voté par le Parlement.
Par ailleurs. Donc voilà, moi je ne vois pas de solution dans les urnes parce que les alternances depuis le début des années 80 nous ont en effet, voilà, n'ont fait que répéter ces politiques extrêmement graves de régression sociale. Et je parlais de Laurent Fabius tout à l'heure. Vraiment, quelque chose s'est noué autour de ce moment-là. Mais par ailleurs, quand vous dites, Sylvain Bourmeau, que bon, les grèves, même quand il y a 1 million, 2 millions, voire 3 millions de personnes dans la rue, comme ça avait été le cas par exemple en 1995. Ce grève finalement ne représente rien. Ça serait dérisoire.
Vous n'avez pas dit que ça représentait rien.
Si, vous avez dit que c'était justement tellement petit que par rapport au corps électoral. Mais vous savez, c'est quand même très très difficile de faire grève. Et plus le code du travail sera attaqué, plus la précarité grandissante depuis exactement les années 80, quand sous Mitterrand on a commencé à mettre en place justement les TUC et compagnie, enfin voilà, tous ces contrats précaires et qui aujourd'hui sont généralisés. C'est intéressant ce qui est en train de se passer en Grande-Bretagne avec le programme de Corbyn et les résultats assez spectaculaires quand même de Corbyn malgré tout ce que les médias en disaient. C'est-à-dire que justement lui, il est en train de vouloir mettre en cause, y compris ces fameux contrats zéro heure où il y a 1,5 million de personnes qui sont sur ce type de contrat en Grande-Bretagne, et ça s'étend aussi en France.
Mais Corbyn,
ça
s'appuie pas sur un mouvement social. Il n'y a pas eu des grèves massives. Il n'y a pas eu des grandes manifestations en Grande-Bretagne.
Non, mais ce que
ça n'a rien à voir. Le résultat électoral de Corbyn, qui est plutôt bon, ne s'appuie pas sur un mouvement social.
Simplement, ce que je suis en train de vous dire, c'est que quand vous dites que les grèves, même quand il y a 500 000, 1 million, 2 millions de personnes dans la rue, faire grève, c'est risquer son emploi,
Mais bien entendu, je ne dis pas le contraire.
Et c'est beaucoup plus important du point de vue politique, comme geste, que d'aller déposer un bulletin.
Ça n'a pas les mêmes conséquences, malheureusement. S'il suffisait de faire grève pour faire changer de politique publique, ça se saurait.
Le problème, c'est qu'on a aujourd'hui un président de la République et sa politique n'est véritablement approuvé que par 15% du corps électoral, et ça c'est un vrai problème.
Mais alors 15% ça devrait être un objectif. Mais alors à ce moment-là, Ludivine, ça devrait être un objectif 15% relativement raisonnable pour la gauche à atteindre. Donc plutôt que de se fixer pour objectif de mettre 3 millions de personnes dans la rue, mieux vaudrait se mettre comme objectif d'avoir 15% des voix et de prendre le pouvoir.
Mais c'est pas avec le Parti Socialiste qu'on parviendra à aller à l'encontre de cette politique.
Philippe Manière.
Non, moi je continue à penser que c'est tout de même dans une démocratie, dans les urnes, que se font les changements. D'abord parce que c'est comme ça qu'on
qu'on respecte nos institutions et la démocratie, et puis d'autre part parce que, alors pour le coup, historiquement et même opérationnellement, il faut bien qu'à un moment, pour qu'une loi soit votée, des députés la votent. Donc je peux comprendre que les mouvements sociaux pavent la voie pour des changements institutionnels, enfin des changements qui requièrent en tout cas l'élection, mais en tout cas, c'est pas eux qui les font changer. Bon,
alors, est-ce que ça veut dire que pour vous, alors on verra bien ce que sont les résultats et dimanche 11 et dimanche 18, mais que ces résultats, s'ils donnent une majorité importante à Emmanuel Macron, ça aura valeur d'adhésion au programme d'Emmanuel Macron.
En un sens, oui, mais encore une fois, ce programme est tellement faible, le contenu est tellement léger que ça ne dit pas grand-chose, à mon avis, sur l'approbation du programme. En revanche, ça en dit beaucoup, et c'est là où je suis en désaccord avec Ludivine, sur l'approbation du candidat. Si ce qu'on nous dit advient, et les sondages, on l'a vu récemment, se trompent assez peu. Ils peuvent se tromper, mais on peut penser maintenant qu'il va y avoir vraiment un raz-de-marée pour La République En Marche. Compte tenu que, justement, on ne sait pas grand-chose sur le programme d'Emmanuel Macron, c'est manifestement un plébiscite pour Emmanuel Macron. Je ne m'en réjouis pas. Je ne suis pas en train de dire, voyez bien qu'il est formidable. Je dis juste, voyez bien que les gens votent pour lui massivement. Si on vote pour tous ces députés dont la plupart sont inconnus, avec un programme dont on ne sait pas grand-chose, c'est parce que c'est une approbation absolument massive de la personnalité de l'élection d'Emmanuel Macron que les gens veulent voir gouverner. Encore une fois, on peut être pour, on peut être contre, peu importe. Me semble-t-il, ça a ressorti au fait. Alors, je voudrais quand même dire un petit mot sur ce qui nous réunit aujourd'hui, c'est sur l'utilité du Parlement et revenir sur ce que disait Ludivine tout à l'heure. Oui, c'est vrai que la Ve République n'est pas... ne génère pas des institutions qui sont très favorables au Parlement. Mais, en même temps, comme on dit aujourd'hui, n'oublions pas que, et d'ailleurs c'est une des choses qu'il faut mettre au crédit de Sarkozy à mes yeux, le Parlement a un peu plus de pouvoir depuis une quinzaine d'années, et d'ailleurs je pense même qu'une des choses qu'on peut trouver pour compenser le peu d'action qu'on reproche, pour expliquer, pour ne pas mettre intégralement au débit du président Hollande le peu d'action qu'il a conduit pendant son quinquennat, c'est que justement il s'est trouvé souvent en butte à une opposition résolue du Parlement, d'ailleurs dans ses propres rangs.
De sa majorité, s'agissant de Sarkozy, c'était plutôt
la loi El Khomri que vous trouvez détestable, et je le comprends très bien, elle est à peu près à 10 ou 15% du texte qui avait été déposé au Parlement. C'est-à-dire que le Parlement l'a très fortement amendé. Alors on peut dire ce qu'on veut, que c'était bien ou que c'était pas bien, c'est une autre question. Mais c'est un fait que le texte qui est ressorti, qui a été voté, était très différent du texte qui avait été introduit, ce qui montre bien que le Parlement peut jouer un rôle considérable, y compris d'ailleurs Ludivine, dans le sens que vous souhaitez, vous.
Mais est-ce qu'il n'y a pas le risque, Philippe Manière, qu'avec des novices en politique, pas même si ils sont seulement semi-novices peut-être, mais que justement cette capacité à intervenir et à contester une politique en soit considérablement amenuisée?
Il y a ce risque, parce que c'est vrai que la vie parlementaire, il y a aussi une technique parlementaire que beaucoup ne maîtriseront pas. Bon, alors, il n'y a pas que des nouveaux, on le disait tout à l'heure, il y a des gens qui font une partie de leur vie politique à droite ou à gauche, mais qui sont déjà habitués aux règles, qui les connaissent en tout cas, et puis tous les autres, ils vont apprendre assez vite. On n'en voit pas dans cette élection, même les tout nouveaux candidats qu'on ne connaissait pas ne sont pas des gens qui ne sont pas capables d'apprendre vite. Mais vous avez raison, ça sera dans un premier temps un gros avantage pour l'exécutif, il aura un Parlement qui ne sera pas habitué, qui ne connaîtra pas les codes pour s'opposer efficacement. Ça c'est certain.
Vous avez quelques secondes pour conclure, Sylvain Bourmeau.
Il y a une autre nouveauté que pointait Luc Rouban, dont je parlais tout à l'heure dans un entretien au Figaro hier, c'est que du point de vue de la représentation sociologique, cette Assemblée nationale d'élus En Marche sera plus que jamais une assemblée de riches, une assemblée de cadres supérieurs, de chefs d'entreprise. C'est un sociologue qui travaille sur ces questions depuis longtemps qui le dit, et il voit là une forme de coupure encore plus grande, qui était déjà à l'œuvre dans les représentations nationales précédentes, mais nettement plus franche, et qui correspond d'ailleurs aux déterminants sociaux du vote pour Emmanuel Macron.
Voilà, ben on aura l'occasion évidemment de revenir sur ces législatives dès lundi dans un autre format que celui du Club des Idées pour essayer d'apprécier l'état de la recomposition, de la décomposition du paysage politique. S'agissant du Club, on se retrouve au lendemain du deuxième tour des législatives. Merci beaucoup en tout cas à tous les trois d'y avoir participé, Ludivine Bantini, Sylvain Bourmeau et Philippe Manière. Merci à toute l'équipe du Grain, Fanny Richet, Céline Leclerc, Cyril Baer, Louise Fuseau, Mélanie Chalandon, qui nous adressons tous ici nos plus chaleureuses pensées. Émission réalisée par Lise Marie Barret, avec à la prise de son Bruno Gagnère Fontanine.